Bonjour à tous. Voilà encore l'occasion que nous avons de louer le Seigneur ensemble et aussi l'occasion d'ouvrir sa parole tous ensemble. Donc c'est toujours un temps de joie et de reconnaissance que nous avons. Alors nous allons prendre le temps de remettre ces instants entre les mains du Seigneur et ensuite nous allons ouvrir la Bible et nous allons faire deux lectures ensemble aujourd'hui. Seigneur, nous te disons merci pour ton salut. Nous te disons merci pour ta grâce infinie, surabondante, glorieuse. Nous te disons merci, sois loué. Seigneur, nous n'avons rien d'autre que cela. Nous n'avons rien d'autre à t'apporter si ce n'est notre reconnaissance, notre action de grâce. Mais nous voulons le faire avec tout notre cœur. Oui, Seigneur, tu es vraiment celui qui a comblé nos vies de ta grâce, de ton salut. Sois loué. Merci aussi parce que tu combles nos vies de ta parole. Ainsi qu'il est écrit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Seigneur, notre demande, notre prière, c'est que nous puissions encore aujourd'hui, maintenant, entendre une parole qui sort de ta bouche. Seigneur, c'est de ta bouche que nous voulons cette parole, parce que de ta bouche ne sort que la vérité, que la vie, que ce qui délivre, que ce qui est essentiel, que ce qui est le plus nécessaire. Nous voulons, Seigneur, ce qui vient de ta bouche. Alors Seigneur, permets-nous cela, accorde-nous ce privilège, en ouvrant les Écritures, en ouvrant ta parole, d'entendre ce qui sort de ta bouche, et permets-nous aussi d'être réceptifs à ce que tu veux nous dire. Permets-nous, Seigneur, de recevoir toujours plus et toujours plus de ta pensée dans nos cœurs et que ta pensée dans nos cœurs nous transforme durablement, nous fasse croître durablement. Et bien plus, Seigneur, qu'elle agisse dans nos familles, dans nos vies, que, Seigneur, le monde des ténèbres recule par la puissance de ta parole et que ton nom soit glorifié. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous allons lire une histoire dans le livre de la Genèse. Donc, vous savez que dans la Bible, il y a différents types de textes, de passages. Et il y a des passages qui nous sont racontés, dans lesquels on peut considérer que c'est une histoire qui s'est vraiment déroulée, et dans laquelle nous avons tout un ensemble de détails. Et comme dit la Bible, ces histoires sont des histoires qui nous sont racontées pour nous instruire, pour nous enseigner. Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui en lisant dans Genèse, chapitre 31, versets 17 à 35. Alors, on lit au beau milieu du chapitre, donc vous n'avez pas le contexte d'avant, d'après. On va se concentrer sur ce passage-là. Mais le chapitre a pour titre, dans beaucoup de vos Bibles certainement, « Départ de Jacob pour Canaan ». Donc, Genèse 31, 17 à 35, où il est écrit « Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan Aram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Et Jacob trompa Laban l'araméen en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait, il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galaad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galaad. Alors Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait ? Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée ? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette, m'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti ? J'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants au son du tambourin et de la harpe. » Tu ne m'as même pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. mais ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux ? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait les téraphimes, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. » Il chercha et ne trouva point les téraphimes. Amen. Et un autre passage plus court dans la prophétie de Jérémie au chapitre 2, versets 10 à 19. Jérémie 2, 10 à 19. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit point des dieux ? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison ? Pourquoi donc devient-il une proie ? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris, et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Noph et de Tchaphanès te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie ? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil ? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve ? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir aucune crainte pour moi, dit le Seigneur. L'Éternel des armées. Amen. Il y a des choses que nous considérons comme étant indispensables pour nous. Et ces choses que nous considérons comme indispensables, nous avons tendance à vouloir les transporter. Certains objets nous semblent indispensables et donc nous voulons les avoir avec nous partout. Et dans la coutume de nos pays, dans nos pays à nous, mais dans beaucoup de pays du monde maintenant, la coutume, c'est que lorsque l'on a des objets que l'on veut garder avec soi, on a trouvé un dispositif extraordinaire, merveilleux, magnifique, que vous connaissez tous, qui nous permet de garder des objets avec nous. Ça s'appelle le sac. Vous savez ce que c'est, un sac ? On a un sac et on va, grâce à ce sac, garder certains objets de valeur près de nous, avec nous. Alors évidemment, quand on parle du sac, vous pensez tous aux femmes, évidemment. C'est ce qui vous vient en tête tout de suite, qui ont des sacs à n'en plus finir, des sacs remplis dans lesquels se trouvent tous les objets possibles et imaginables. C'est une légende, paraît-il. Mais les hommes aussi ont des sacs. Et on sait que les sacs peuvent avoir des vocations différentes. On peut par exemple avoir la mallette de travail dans laquelle on va mettre des objets qui sont davantage des objets professionnels. On peut avoir, beaucoup de jeunes ont un sac à dos, des jeunes et des moins jeunes, dans lequel on embarque un certain nombre de choses. Et on connaît aussi des sacs un peu plus inventés, comme le sac de Joséphine Ange Gardien, qui est un sac, vous avez déjà vu son petit sac. Non, vous ne connaissez pas ça non plus. connaissais rien du tout. À chaque fois, c'est moi qui dois tout raconter. Donc, Joséphine Ange Gardien, c'est un téléfilm qui passait sur TF1, que vous n'avez jamais vu, vous ne savez pas ce que c'est. Et donc, en fait, Joséphine, elle a un petit sac. C'est une petite sacoche comme ça. Et en fait, tout peut en sortir. Et donc, elle peut sortir un parasol de son sac, elle peut sortir une colombe, elle peut sortir une machine à café. Tout peut absolument sortir de son sac. Certains hommes ont des sacs et les hommes qui veulent être le moins légers, ils ont des petites sacoches, des petits sacs. Ça, c'est plus nouveau dans l'histoire du monde. Et alors, ils ont une espèce de filet comme ça et ils ont leur sacoche qui pend. Ouais. Alors, il y a ça aussi. Et puis, les hommes qui sont vraiment de niveau supérieur, ils ont un sac banane qu'ils mettent parfois ici, parfois sur le côté. Hein, donc, alors, le sac banane, c'est une question de style. Il faut savoir bien le porter. Parce que soit ça donne très bien, soit ça ne donne rien du tout. Mais c'est aussi quelque chose qui nous permet d'avoir des affaires avec nous. Et pourquoi c'est important de parler du sac? C'est que le sac a cette caractéristique, quel que soit le type de sac, de nous permettre de garder ce que nous trouvons très cher et très utile à nos vies pour l'avoir avec nous. Alors si on prend cette petite sacoche que les hommes prennent, en général, ils vont mettre leur téléphone dedans, leur portefeuille, quelques petites choses, une petite clé qu'ils veulent absolument garder avec eux, ce que nous trouvons utile et indispensable. Et le texte de la Genèse que nous avons lu, c'est certes, il peut être un peu long et tout ça, mais il nous parle de ça, il nous parle justement de ce comportement qui consiste à garder avec soi des choses que l'on trouve importantes. Et là, il est question de Rachel, qui est donc la femme de Jacob, qui, comme vous l'avez vu dans le texte, a volé les dieux de son père. Donc, elle a volé des téraphimes, donc des petits dieux, qu'elle a pris avec elle et qu'elle a embarqué en partant en Canaan. Alors, si on donne un peu de contexte, on se rend compte que c'est le moment où Jacob est conduit par Dieu, finalement, à quitter la maison de Laban, son beau-père. Il quitte la maison de son beau-père et il part avec ses femmes et ses biens. Et voilà que Rachel, sans rien dire à personne, va voler les téraphimes de son père, les dieux domestiques de son père, et qu'elle part avec eux en Canaan. Et à un moment donné, Laban se rend compte que tout le troupeau est parti, il est très fâché, il s'en va pour essayer de les rattraper, et il veut absolument, notamment, comprendre pourquoi est-ce que Jacob est parti sans rien dire, mais il veut aussi comprendre où sont ces téraphimes, où sont ces dieux. Et comme vous l'avez vu dans le texte, au travers d'un subterfuge de Rachel, eh bien, Laban ne va jamais trouver ces dieux. Alors les téraphimes, c'est quoi? Peut-être que c'est un peu compliqué à imaginer, quoique, c'est en fait des espèces de petites statues à forme humaine qui étaient en fait les divinités domestiques qui restaient dans les habitations des personnes. Et donc, c'était des petits dieux, on peut dire des petites statues humaines de différentes tailles, de différentes formes. Alors, il y en avait certaines qui étaient de grande taille, qu'on ne savait pas déplacer, et puis il y avait des téraphimes de plus petite taille, des petits dieux domestiques qu'on pouvait garder avec soi, et comme vous l'avez vu, qu'on pouvait déplacer. Alors, ces téraphimes, ils avaient un peu, non seulement c'était des dieux, hein, au sens de ce qu'on peut comprendre, mais ils étaient un petit peu comme des porte-bonheur. On pouvait les utiliser pour consulter l'avenir, et on pensait que le bien-être de la famille était lié à ces téraphimes-là. Et donc, c'était vraiment des objets importants que les idolâtres, ceux qui ne connaissaient pas le Dieu d'Israël, voulaient garder avec eux, près d'eux, parce qu'ils savaient que c'était des objets importants pour leur vie, importants pour que tout se passe bien. Ils voulaient avec eux leur petit Dieu domestique. Alors certains pensent que Rachel a volé les dieux domestiques à Laban en compensation de ce que Laban n'a pas donné à Jacob. Vous savez que Laban a été un grand maître de l'entourloupe et qu'il n'a pas donné à Jacob ce qu'il aurait dû avoir. C'est une hypothèse. D'autres pensent que Rachel a volé les dieux domestiques de son père pour empêcher son père de continuer à être idolâtre. Mais quand on lit le texte, on doit certainement comprendre et accepter que Rachel a pris les dieux de son père tout simplement parce qu'elle voulait être accompagnée par ses dieux alors qu'elle quittait la maison de son père. Et qu'elle s'attendait à ce que ses dieux l'accompagnent et que la bénédiction de ses dieux reste avec elle. On doit donc saisir, quand on lit le texte, que Rachel avait ses petits dieux avec elle. Elle voulait être accompagnée par ses dieux pour qu'ils soient comme un porte-bonheur, qu'ils lui portent chance. On voit dans le texte que Rachel a été prête à prendre de grands risques pour qu'on ne trouve pas ses dieux. On voit que Rachel a protégé ses dieux domestiques. On voit que la présence de ses idoles réconforte et que Rachel plaçait sa confiance en eux. Et lorsqu'on lit le texte, on voit que Jacob et sa famille sont en train de partir à Canaan, ce que nous associons tous quand même un peu à la terre promise. Et nous voyons que alors qu'ils sont en train de partir à Canaan, elle a pris les petits dieux de son père pour partir. Alors quand on lit ça comme ça, en fait, ça vous apparaît tout de suite au visage. Ça semble même évident, c'est comme si le texte s'interprétait par lui-même et nous parle de ce mouvement dans lequel nous pouvons être, de quitter le monde pour aller en Canaan, de quitter l'espace que Dieu ne veut pas que nous occupions, mais de quand même garder avec nous des petits dieux qui nous rassurent. Le texte nous parle de cette tendance que nous pouvons avoir de garder nos petits dieux domestiques. Ces petits dieux qui font office de Dieu pour nous au quotidien. Ces petites choses dans nos vies auxquelles nous nous attachons, auxquelles nous allons développer un attachement fort et important et qui vont devenir les petits dieux de nos vies. Les petits porte-bonheur avec qui nous allons fonctionner, nos petits dieux du quotidien. Alors on peut le prendre d'une part sur le plan de l'histoire du salut, de l'histoire de notre salut. Je suis appelé à quitter le monde pour entrer en Canaan, pour entrer dans la vie de la marche avec Dieu, pour entrer dans le salut de Dieu. Mais il y a quand même certaines choses que j'aimerais bien garder de mon ancienne vie, en me déplaçant vers Canaan. Mais on pourrait aussi le prendre différemment sur le plan de l'histoire de notre vie. Il peut arriver que Dieu veuille conduire nos vies quelque part, veuille diriger nos vies quelque part, mais que nous ayons la volonté de garder certaines choses de notre passé avec nous pour aller là où nous allons. Alors prenons l'exemple, par exemple, de l'amertume. Certainement, Dieu nous amène quelque part, Dieu nous amène en Canaan, Dieu a un Canaan pour nous, mais nous voulons quand même garder cette amertume du passé et vouloir avancer avec elle. C'est mon petit Dieu domestique, je ne veux pas m'en séparer, je ne veux pas la lâcher, elle va rester avec moi, cette amertume. Donc nous avons le mouvement de partir, mais nous gardons des choses du passé qui nous empêche d'avancer. Alors, sur le plan de l'histoire du salut, ça pourrait être tout simplement de garder certains principes mondains, certains comportements mondains, certaines attitudes mondaines, et d'espérer pouvoir quand même croire dans notre relation avec